C'est beau.
C'est beau.
C'est beau.
C'est beau.
C'est beau.
Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things.
C'est beau, nouveau numéro, un numéro donc pour ce mois d'avril avec toujours mes deux comparses Shelly et Eric. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Vous êtes en pleine forme pour démarrer cette émission ?
Mais oui.
Mais oui, c'est le printemps, ma chère
c'est
Valérie, on est en forme.
Et surtout avec ces paroles qui parlent des whiskers on kittens, donc les moustaches des chatons.
Oh,
quel sujet!
Quelle belle transition!
Je suis pro, hein?
Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui personnellement me tient beaucoup à cœur, Achélie
ah bon
également, Eric beaucoup moins.
Oui.
Mais qui est la cause animale et la protection animale.
Donc c'est pas sur le jardinage.
C'est pas le jardinage aujourd'hui, Eric, sera une prochaine fois.
J'ai pas tout compris, c'est pas grave.
Voilà, on reçoit Bernard Bousma, président fondateur de l'association La Petite Maison des Animaux basée à Chaeng. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Eh ben, merci d'avoir accepté notre invitation également. Donc la cause animale, un vaste sujet, on va pas parler de choses qui fâchent, c'est pour parler des belles choses de la cause animale. Comment on s'investit dans cette cause au point de créer un refuge ? Voilà, parce qu'on peut militer, on peut être actif, mais voilà, au point de créer un refuge, c'est un engagement personnel, financier et de temps, beaucoup de temps aussi.
Alors, je pense que c'est un sacerdoce. On ne peut pas démarrer dans la protection animale ou surtout créer un refuge si on n'a pas la fibre, si on n'a pas vraiment au fond de soi l'amour des animaux. C'est quelque chose d'essentiel parce que on va traverser énormément d'étapes avec énormément de sentiments différents. Ça va de la joie aux pleurs. C'est extrêmement difficile. On voit beaucoup de choses, parfois difficilement soutenables. Et puis parfois joyeuse aussi. C'est le principe même de la vie, hein, c'est-à-dire qu'on va de la naissance à la mort, donc tout comme l'être humain, on doit accompagner l'animal tout au long de sa vie et être là même à la fin.
Donc un refuge qui existe depuis combien de temps, l'association maintenant ?
C'est la Petite Maison des Animaux et existe depuis, on est dans la 7e année, mais ma femme et moi, y sommes dans la protection animale depuis plus de 30 ans. Donc c'est un long cheminement où on avait déjà beaucoup d'animaux chez nous. Moi étant enquêteur à l'époque pour une grosse association, ça m'a permis de voir, de me poser aussi peut-être avec le temps l'association, y réfléchir, ne pas me tromper pour ne pas faire n'importe quoi. Ça ne s'improvise pas. Ce sont d'énormes responsabilités parce que, justement, on ne peut pas faire n'importe quoi. La moindre erreur peut causer des dégâts. Être extrêmement lucide, c'est le même fonctionnement aussi qu'une entreprise. On est obligé de fonctionner en fonction des finances aussi. Et bien souvent, le cœur a un peu tendance à l'emporter sur l'argent, mais il faut savoir se faire fureur et se dire, on fait en fonction de ce qu'on peut faire. Ce que je dis à tous ceux qui m'appellent des fois et qui souhaitent créer leur association, je leur dis attention, attention, soyez vigilants. Ça va être compliqué parce que il y a le facteur animal, la protection animale. Vous allez être confrontés à peut-être des soucis administratifs, des soucis avec beaucoup de gens et surtout financiers.
Voilà, les frais, tous les frais qu'engendrent évidemment les animaux, l'alimentation, les frais vétérinaires, il y a tout ça à prendre en compte. Des fois, on voit, moi je suis abonné à des pages 30 millions d'amis ou des choses comme ça, et on voit des gens qui pensent bien faire en cumulant les animaux, en les collectionnant entre guillemets, mais c'est plus de la protection parce que les stérilisations sont pas faites, la nourriture peut manquer parce qu'il manque de sous. Ils en ont, ils savent plus comment arrêter. Et donc, à un moment, ces animaux leur sont retirés parce que ça devient de la maltraitance quelque part.
Oui, alors, ça devient de la maltraitance malgré eux. Hein.
Ce sont à la base
des gens qui sont passionnés aussi.
Plein de bonne volonté, voilà.
Qui sont passionnés, qui aiment les animaux, mais qui se laissent déborder par leurs sentiments et par leur générosité. Je pense que c'est surtout ça qui les met en péril. C'est que, à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit lucide. Et la lucidité, c'est se faire fureur aussi. Et parfois, il y en a qui ne savent pas le faire. Et ça peut conduire, en effet, à des situations dramatiques où, encore une fois, ce sont les animaux qui trinquent malgré eux.
Et donc, créer une association, donc une action qui est déprivée pour quelque chose qui est pour tout le monde, y compris nos amis les animaux, comment vous avez fait pour être guidé dans tout ce qui est justement la sécurité, tout ce qui est la santé, parce que à l'origine, vous n'êtes pas vétérinaire, par exemple. donc, comment est-ce qu'il y a, est-ce qu'on peut faire appel à l'État pour avoir des références? Ou est-ce que vous avez appris justement en essayant, en commençant petit peut-être, et avec chaque animal, vous avez appris des choses? Comment on s'embarque sur une chose pareille?
Alors, comment on s'embarque? Ma femme, Marie-Christine, et moi, on a 30 ans de recul. Donc 30 ans, c'est 30 ans d'expérience. C'est aussi 30 ans d'apprentissage. On monte, on découvre jour après jour au contact des animaux, parce que les animaux nous parlent beaucoup. Il faut savoir les écouter, il faut savoir les regarder. Je pourrais vous donner l'exemple d'un petit chien qui nous a été amené il n'y a pas très longtemps. Un petit York, hein, c'est tout petit, donc un chien agréable. On nous disait qu'il était agressif, qu'il mordait, etc. J'ai dit « Ok, d'accord, on va le prendre ». Et puis tout de suite, on l'a fait adopter. Et deux jours après, il nous est revenu, nous disant « On n'en veut pas, il est mordeur, etc. » C'est un chien qui avait déjà une dizaine d'années. Je suis resté étonné. On l'a mis dehors et nous sommes assis et on l'a regardé. Et on a passé une heure à le regarder et on s'est aperçu qu'il était sourd. Donc, il suffisait juste de le regarder pour se rendre compte qu'il avait des problèmes. Et ce petit chien, et d'autre part, il n'accepte pas qu'on lui crie dessus, qu'on hausse le ton. Et dès qu'on lui parle gentiment, il est adorable, il est mignon comme tout. C'est vraiment un chien que maintenant, il reste dans notre association, hein, puisque on pourra en parler un peu plus tard, quel est le rôle, le but principal de notre association. Mais ce petit chien, maintenant, est devenu un amour. C'est vraiment un chien exceptionnel, une intelligence rare. Mais pourquoi? Parce que les gens n'en ont pas voulu uniquement parce qu'ils pensent que le petit chien, peu importe son âge, le petit chien doit exécuter ce qu'on lui dit. Si on lui dit de faire ça, il doit faire ça. Si on lui dit tu t'assois, il doit s'asseoir. Si on doit le forcer à courir, aller en promenade, à faire un footing, eh bien, il doit le faire. Non, je suis désolé. À son âge, il ne peut plus le faire. Il vit à son rythme, à son âge, à 10 ans, c'est une personne âgée.
Et donc, votre association, autre que d'être une école pour la vie, je dirais, parce que pour nous, entre les êtres humains, ça vaut la peine de prendre un peu de temps pour laisser l'autre s'exprimer et de comprendre pourquoi il y a des comportements qui peuvent être étranges par moment. Là, vous nous apprenez ça avec les animaux, mais le but de l'association, justement, vous avez touché un mot dessus, c'est quoi? C'est l'adoption? Qu'est-ce qui est le but en soi?
Le but de la petite maison des animaux, c'est de récupérer les animaux que personne ne veut.
Que des chiens et des chats?
Alors,
il
y a beaucoup d'associations qui récupèrent de jeunes chiens, qui peuvent ensuite nous faire réadopter, etc. Et on a besoin d'eux, hein. Ça c'est sûr. Mais on a une petite frange d'animaux, hein, pas que de chiens, de chats, ou aussi on a une ponette, un aigle, chèvre, etc.
Ok.
Et on a ces animaux, soit arrivent handicapés, soit ont des troubles psychologiques, donc difficilement adoptables parce qu'il faut être extrêmement souple, ou soit ils arrivent à un âge avancé et les familles, souvent, ou les gens n'en veulent plus, ou alors on a des personnes âgées qui décèdent, mais par contre, au moment de l'héritage, les enfants n'en veulent plus, donc on veut bien se partager la maison, mais par contre, l'animal, si on peut s'en débarrasser, c'est très bien. Donc, nous nous sommes dit, essayons de faire quelque chose à notre façon, à notre style. Donc, nous ne sommes pas un refuge, nous sommes une association, c'est-à-dire que nous n'avons pas de box et nous n'enfermons pas derrière des barreaux les animaux. Donc, nous, ils vivent, c'est une grande association où nous avons donc un hectare et les animaux vivent en maison, c'est-à-dire avec nous. C'est leur maison.
Ils s'entendent bien?
Tout le monde.
Ah oui, même quand il y a un nouvel arrivant.
Oui, quand il y a un nouvel arrivant, nous savons l'intégrer et les animaux savent très bien le faire. Ils sont peut-être plus faciles que les humains pour accepter la différence.
Ah, après, moi, je connais des humains qui s'intègrent bien. Regardez Valérie, ça se passe bien, hein, Chélie?
tu parles à une étrangère. Ah oui, c'est vrai. Je trouve aussi c'est
vrai. Je m'intègre bien au troupeau. C'est vrai. Je m'intègre bien au troupeau.
C'est vrai. C'est vrai. Non, elle est bien. Ouais.
Donc, ces chiens et chats qui vivent avec vous, mais il y en a combien? Parce qu'à un moment, il faut être aussi réaliste. C'est compliqué de vivre avec beaucoup dans une maison.
Il n'y a pas que la maison, il y a l'extérieur aussi.
Il y a une chatterie, je crois, il y a un lieu pour les chats.
Il y a trois bâtiments pour
les chats. Mais ils ne sont pas mis de côté, voilà.
Ils ne sont pas mis de côté.
Voilà, c'est ça, ils vivent à votre contact.
Des fois, il peut y avoir des séparations, mais ils sont quand même en contact à travers le grillage. Mais sinon, non, ils ne sont pas enfermés. Hein. Tous ces animaux, on a eu une ponette qui est arrivée avec la hanche fracturée. Donc, bien sûr, on nous a menacé de l'abattoir. Et, donc, il fallait absolument le prendre. Donc là, on s'est posé sérieusement la question, parce que franchement, pour nous, c'était nouveau.
Et vous êtes arrivé à la sauver et préparer.
Oui. Non, ils ont fait un barbecue géant.
Ah oui, bon, on n'a pas été invité. Dommage, on n'a pas été invité. Bon, il y a Covid, mais quand même.
Non, je pense que... Non, du coup, elle s'est fait une copine avec la NES et elles sont devenues inséparables toutes les deux. Et elles vivent très bien aussi, parce qu'on les amène avec les chiens et avec les chats. Tout le monde, voilà.
Et donc, vous avez immobilisé l'animal? Comment vous avez fait?
Le temps.
Non. Ah ouais?
Le temps fait beaucoup de choses.
Ok.
Le temps, la patience. Un chat, on l'avait enfermé dans notre chambre pour le sociabiliser. Il est resté 2 ans sans qu'on puisse le toucher.
Wow.
2 ans.
D'accord.
Mais on le laissait faire ce qu'il voulait. Mais on l'a mis dans notre chambre pour l'obliger à être en contact avec nous. Ce qui fait qu'au bout de 2 ans, il a mis 2 ans. Et au bout de 2 ans, c'est devenu un amour. Voilà, on pouvait le prendre, le caresser, etc. On avait réussi, mais avec du temps, de la patience.
Vous êtes association, certes, mais est-ce que vous les faites adopter, ces animaux? Vous ne pouvez pas tous les garder. Certains, j'imagine, avec des passés compliqués, que vous savez que ça sera difficile d'être adopté, ils sont intégrés à la maison, ils sont habitués à vous, mais vous ne pouvez pas garder tout le monde. C'est compliqué à gérer, puis financièrement, comme on parlait tout à l'heure.
Alors, je voudrais bien qu'on explique la différence qu'il y a entre c'est difficile à gérer autant d'animaux, mais si vous prenez un refuge classique, il va dire en fonctionnement, on est en capacité, par exemple, de prendre 60 animaux. Quelle est la différence entre faire un roulement, entre faisant adopter et reprenant des autres?
Le nombre est toujours le même.
Exactement. Ou alors en gardant des animaux, mais en ayant le même nombre.
Oui, mais vous, il y en a qui arrivent, où il y a des sauvetages, est-ce que vous en faites partie?
Oui.
Est-ce qu'il y a des signalements aussi qu'on vous fait?
Tous les jours.
Vous avez la possibilité, vous êtes légitime pour, par exemple, aller chez un particulier et dire, faut pas faire comme ça, on peut pas attacher. Moi, j'ai un voisin qui attache depuis des mois une petite chèvre. Est-ce que vous êtes légitime pour aller dire à ce propriétaire, on peut pas vivre comme ça, un animal ne peut pas être attaché à 2 mètres de chaîne depuis des mois comme ça? Est-ce que vous pouvez intervenir dans ce genre de situation?
Je pense que nous sommes une association reconnue d'intérêt général, donc on peut intervenir. Après, il y a une réglementation pour tout. Là où on peut, ça va être un peu dur ce que je vais vous dire, mais voilà, c'est que là où on peut voir de la maltraitance, pour les textes, ce n'est pas de la maltraitance. Et vous êtes obligé de vous référer à chaque fois à des textes de loi. Aussi cruel soit-il, on doit être vigilant à ça, de ne pas s'écarter du cadre. À ce moment-là, c'est nous qui sommes pris en défaut et pouvons être poursuivis.
Mais l'animal qui va continuer à souffrir.
Et donc, il faut être extrêmement, extrêmement vigilant. Être enquêteur, c'est pas faire n'importe quoi. Et je voulais justement, effectivement, tu as très bien fait d'en parler, parce que à une certaine époque, on m'avait demandé de former des délégués enquêteurs. Et la première des choses que je leur disais, attention, là où vous voyez de la maltraitance, ce n'est pas forcément de la maltraitance. Si vous allez chez des gens qui ont très peu de moyens et que c'est un peu sale chez eux ou c'est le désordre, ce n'est pas de la maltraitance. Vous voyez, ce n'est pas parce que les gens ne vivent pas comme vous que forcément c'est de la maltraitance. Mmh. Après, il faut aussi voir une chose. C'est qu'il y a énormément, énormément d'abandons. On a à peu près, on va dire, plus de 100 000 abandons par an en France et on a beaucoup de maltraitance, de choses comme ça. On ne peut que se focaliser que aussi en étant encadré. Il y a des textes qui sont là pour ça. On ne fait pas n'importe quoi. On ne va pas enlever. Personnellement, j'étais contre d'enlever des animaux parce que l'homme et l'animal sont indissociables. Mais on ne peut pas enlever un animal sans penser à l'être humain, l'homme ou la femme, qui est là. Il y a un lien qui s'est créé entre eux. On ne doit pas l'exclure. Il faut absolument penser aux deux. Et puis ensuite, regarder où l'animal va atterrir. Parce que si où il est, parfois, il suffit d'aider l'humain à gérer pour régler le problème.
Oui. Oui, je comprends.
Et c'est là où c'est beaucoup plus compliqué. On ne peut pas être délégué enquêteur qui veut. Il faut avoir un peu de psychologie, il faut aimer les humains et aimer les animaux. Mais on ne peut pas faire que l'un ou que l'autre. Voilà.
Alors après, c'est compliqué à apprécier, comme vous dites. Et ça peut l'être d'autant plus quand vous avez des propriétaires d'animaux dits dangereux qui doivent être déclarés, où il y a un problème. Justement, cette liaison que vous parlez entre l'animal et l'homme. Après, il y a aussi des textes de loi qui disent que certains animaux doivent être déclarés.
Tout à fait, on parlait d'animaux. Oui,
oui, je pense à des chiens méchants, oui. Voilà, oui. Ou dits méchants, ouais, voilà, ou supposés méchants.
Le chien,
voilà.
Je pense qu'à la base, il n'est pas forcément méchant, mais on le voit avec le cas de cette jeune femme enceinte qui a été dévorée par son propre chien, Curtis, mais qui est reconnu en fait que c'est le propriétaire lui-même qui faisait du mordant, qui faisait que son chien soit violent. Et voilà, ça s'est retourné contre sa propriétaire. Mais à la base, est-ce qu'un animal est foncièrement dangereux, ou est-ce qu'un pitbull, un rottweiler a forcément dans sa tête, dans son esprit, cette agressivité qu'on leur reproche?
Non, c'est catégorique.
On peut se faire attaquer par un Yorkshire, hein,
exactement.
Des petits chiens hargneux comme
exactement.
Ça, ils vous chopent le mollet, c'est aussi grave, ça fait aussi, mais ça lâche pas.
ça, j'aimerais vous choper le mollet, moi, Valérie.
C'est un vrai petit roquet, Eric Martineau.
Après, alors faut savoir que sur ce type de chien, un petit peu, tout, on parle des chiens de catégorie, là, il y a une réglementation qui est très stricte. C'est vraiment très, très strict. Je reçois des coups de téléphone en ce moment, je ne sais pas pourquoi, il y a des périodes, mais c'est en ce moment beaucoup de gens qui veulent se séparer justement de ces chiens-là. Ce sont souvent des jeunes qui prennent ça. Je ne sais pas pourquoi.
Ça fait une mode, ça fait bien d'avoir...
C'est ça.
Après, ils ne maîtrisent plus, c'est-à-dire que le chien...
C'est déjà des chiens qui sont très musclés, quoi.
Voilà.
Il y a cet aspect
qui
aussi.
Qui ont une puissance et qui ont une ossature et une mâchoire. Je ne vous dis pas la puissance de la mâchoire. Hein. Donc, si ce ne sont pas des chiens qui sont tenus, qui ont été éduqués, qui ont été, on va dire, élevés normalement, éduqués normalement, dans un climat apaisé et puis où il n'y a pas de violence, voilà, il va reproduire ce qu'il vit. Si chez lui, il y a de la violence ou ça hurle, etc., le chien va s'imprégner de tout ça. Si par contre, c'est de la sérénité, du calme, le chien le saura.
Et concernant la justice, il y a beaucoup de choses à dire. Quand on voit des maltraitances reconnues, là je ne vais pas faire pleurer les auditeurs, mais un chien qui a été brûlé vif, qui s'en est sorti, mais qui est dans un état, c'est reconnu, c'était fait exprès. Et ces gens prennent du sursis ou une petite amende, ou ils ont interdiction de reprendre des animaux, sachant que beaucoup avaient déjà interdiction d'avoir des animaux. Quand il y a un enquêteur, quand c'est signalé par des voisins ou par des gens, ils ont encore des animaux alors qu'ils avaient interdiction. Il n'y a jamais de prison pour ces gens-là alors que c'est du vivant, l'animal. Après, il y a des gens qui vont me dire « Oh, c'est qu'un chien, j'ai déjà entendu ça. C'est qu'un chien, c'est qu'un chat, c'est qu'un lapin, bref. »
T'énerve pas, Valérie.
Non, mais il y a ces réflexions-là. Ce n'est que, voilà. Mais c'est du vivant. Et comment la justice peut être aussi laxiste, aussi permissive par rapport aux cruautés qui sont faites envers les animaux? Vous pensez de quoi, ça, sur cette justice qu'on voit toujours, c'est du sursis, c'était pas grave, en fait?
Il ne faut pas se tromper de sujet, parce que ce n'est pas la justice, c'est la législation qui est responsable. Ce n'est absolument pas la justice.
Après, un juge peut faire un exemple aussi.
Non, ce n'est pas son rôle.
Il doit appliquer.
Il n'est pas là pour ça. Oui. Un juge est là pour appliquer des lois, c'est tout simplement. Il n'est pas là pour mettre ses sentiments en avant, et heureusement, parce que sinon, ça serait n'importe quoi.
Donc c'est la loi qui est mal faite.
C'est la loi qui est mal faite.
Qui doit être révisée et prise au sérieux pour ça.
Justement, tu as très bien fait, j'y avais pensé. Il y a le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, donc en ce moment... est en train de faire une présentation d'un plan d'action pour lutter contre l'abandon des animaux de compagnie. Alors, je l'ai lu parce que j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et on voit que chaque année, entre 750 000 et 1 million d'animaux de compagnie sont adoptés. Hein, c'est très, très bien. C'est la France aussi qui détient un triste record du plus grand nombre de votes d'abandon, avec plus de 100 000 abandons par an. Donc, le ministère de l'Agriculture, là, c'était en décembre 2020, s'est penché avec trois plans d'action, qui sont d'abord sensibiliser, et ça, c'est très important. Donc, sensibiliser au bien-être des animaux, par exemple, de compagnie, dès l'école. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous, on revendique. C'est tout petit. qu'on doit commencer à leur parler de, du bien-être, de ce qu'est un animal, le respect de l'animal qu'on doit avoir envers lui. Interdire aussi la vente de chiens ou de chats, par exemple, n'importe où, que ce soit dans les véhicules ambulants ou alors même sur des sites web.
On voit des fois sur Facebook, sur des sites de bric-à-brac.
Oui, mais parce que...
Des ventes de chiens, c'est un site pour les bric-à-brac, pour se débarrasser d'objets, et les gens mettent des chiens à vendre sur ces sites-là.
Parce que c'est de l'argent facile. Ouais. Alors, vous avez des sites comme très connus, que je nommerai pas, qui, du coup, le gouvernement a légiféré, les a appelés en leur disant, attention, maintenant, pour mettre en vente sur notre site, il va falloir...
Telles conditions, oui.
Que vous ayez un numéro de SIRET, que vous soyez inscrit en tant que professionnel. Voilà. Sauf que, maintenant, ils ont quand même laissé la possibilité de donner.
Donner.
Alors, c'est facile de mettre une annonce « donne » et puis au téléphone de dire « bah non, finalement, c'est un don moyennant ». Voilà. Donc, ensuite, il y a aussi, dans le deuxième plan, hein, dans leur plan d'action à trois volets, il y a le deuxième volet qui dit « organiser et accompagner ». C'est aussi faciliter l'accès aux soins pour les plus démunis. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose où on doit le souligner en gras. On peut voir que chez les vétérinaires, par exemple, les tarifs sont libres. Donc, ils pratiquent les prix qu'ils veulent. Mmh. Vous voyez, par exemple, des consultations à 80, 90 euros, la consultation sur Paris. Et puis, vous pouvez en voir à 30, 35 par ici, par exemple, chez certains. Ça, malheureusement, c'est problématique. Parce que quand on renvoie la faute aux propriétaires en leur disant « Mais vous n'avez pas fait stériliser votre animal, vous ne l'avez pas fait identifier, pourtant c'est obligatoire ». Oui, mais les gens n'ont pas forcément les moyens, puisque les prix sont libres chez les vétérinaires. Il n'y a pas suffisamment de dispensaires pour animaux. Par exemple, dans notre région ici, il n'y en a pas, zéro. Il faut aller à Blois, par exemple. Donc ça, il y a des besoins sur le territoire, il y a peut-être des choses à mettre en place, il y a peut-être des choses... Ça vaut peut-être le coup de dépenser un peu d'argent d'un côté pour en économiser beaucoup plus de l'autre. Ça, c'est une des bonnes idées qu'il faut retenir.
J'anticipe un peu ce que nos auditeurs peuvent se dire en entendant des propos sur les animaux. Aujourd'hui, où on a tellement du mal, on est dans une crise sanitaire, où les êtres humains n'ont pas accès aux soins, aux vaccins, etc. Là, comment on peut, et là c'est une question philosophique, j'ai quelques réponses pour moi, mais j'aimerais entendre les vôtres, comment on peut expliquer aux gens que c'est en fait ensemble, c'est que effectivement, l'être humain est très important dans notre société, crucial dans la société humaine, mais le mariage, justement, de soins, de care, comme on dit souvent en Europe aujourd'hui, c'est vraiment comment on peut s'occuper de l'autre, l'autre pas que les êtres vivants humains, mais les êtres vivants, point barre.
Excellente question, mais par contre, la réponse est aussi complexe. C'est vrai qu'il y a des lobbies, il y a beaucoup de gens, tout le monde, pratiquement tout le monde, sauf certains, mangent de la viande. Donc, on a derrière tous les animaux de la ferme, etc. Il y a les animaux dits comme les animaux de compagnie. On a eu une avancée en disant, voilà, ils sont doués de sensibilité, c'est très bien. En ce moment, moi, je suis désolé de voir un gouvernement qui divise par deux le prix de la chasse, le permis de chasser. Voilà, je me dis, bon, quel est ce gouvernement? Voilà, je me pose la question, je me dis qu'est-ce qu'il fait pour ce qu'il nous reste d'animaux, parce qu'il nous en reste très peu, à tel point c'est que les chasseurs sont obligés d'élever pour pouvoir tuer, et que c'est devenu un loisir. Bon, c'est un sport, donc il paraît que c'est un sport, c'est un loisir. Bon, je suis désolé, on n'a peut-être pas la même conception du mot.
Mais... Alors, après, ça peut être compliqué aussi. Alors, je suis pas un chasseur, mais j'ai rien contre les chasseurs. Bah oui, Valérie, me regarde pas comme ça.
Non, mais on parle de l'élevage pour chasser. Là, c'est pas de la chasse.
Oui, mais on a aussi le problème dans nos villages qu'on a de moins en moins de chasseurs. Alors, ça peut faire bizarre, mais et donc, alors.
Merci, je vais venir chez vous.
C'est vrai. Alors, ça interroge aussi, parce que je suis aussi agriculteur. Et alors, OK, les faisans, les perdrix ne nous dérangent pas. Enfin, il n'y a aucun problème. On a un vrai problème, c'est vrai, quand même, avec les sangliers. Ça, c'est, il y a un vrai, vrai souci. Et surtout, il n'y a pas de régulation. Comment on peut faire une régulation des... je sais, moi, j'adore les chevreuils dans mon verger. J'adore voir un chevreuil. C'est très beau. Et je ne me verrais pas tuer un chevreuil. Ça, je... Mais... Après...
Un sanglier, oui.
Non, non plus, mais pas moi. Mais par contre, je sais très bien qu'il y a un vrai problème. J'ai aussi des vergers dévastés par les chevreuils. Hein. J'ai un verger enclavé dans une forêt et je ne récolte rien sur 1 mètre, 1 mètre 50 la partie basse. Alors, comment on fait ? Enfin, je pense qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Alors, je sais que c'est pas facile à entendre.
Non, mais c'est très facile à entendre. J'entends très bien. Mmh. Je pense qu'il y a une chose que les gens ne comprennent pas ou tout le monde ne s'aperçoit pas, c'est que l'homme prend tellement d'espace et qu'il prend de plus en plus d'espace et tellement encore plus d'espace que du coup, il enlève l'espace qui est dû normalement à l'animal et il se dit, j'en veux toujours plus de l'espace. Du coup, je réduis, je vais encore empiéter sur son espace naturel. Donc, l'animal n'a plus le choix que pour se nourrir et pour survivre, que de venir manger là où il y a à manger, vu qu'on lui enlève son territoire. Il suffit de lui rendre son territoire et vous n'aurez plus de problème.
Mmh. Enfin, les sangliers, c'est un vrai problème quand même.
Parce que à chaque fois qu'il y a un problème, c'est toujours la faute de l'animal.
Ah non, mais...
C'est franchement quelque chose... J'entends partout, à chaque fois, il y a quoi que ce soit, c'est de la faute de l'animal. Mais jamais l'homme n'est responsable de quoi que ce soit. Bon, c'est quelque chose qui m'interpelle. On peut se questionner, en toute neutralité, en se disant, mais tout le monde a le droit d'exister. Faut pas oublier que sans les abeilles, qu'est-ce qui se passerait?
Ah, mais je suis d'accord. Moi, j'ai des abeilles et il faut des abeilles dans nos vergers, sinon on a un problème. Oui.
Mais après,
c'est le problème du nombre, voilà.
Eh ben, faut réguler les hommes aussi, alors, puisque si vous le prenez comme ça.
Non, mais pourquoi pas?
On fait partie de...
La race supérieure à tout le monde, l'homme.
On n'est pas la race supérieure. Regarde le virus.
Si, beaucoup quand même.
Non, mais je suis peut-être un peu dur dans mes propos, mais si je prends cet aspect, cette vision qui est la vôtre, forcément, je suis obligé d'avoir cette réponse-là. Puisque on veut réguler les animaux, et puis quand on voit à l'heure actuelle qu'on est en saturation partout, dans le monde, nous avons jamais été autant peuplés. Regardez, ils sont 1,4 milliard en Inde. En Chine, ils sont plus d'1 milliard. 350 millions aux États-Unis, 66 millions en France, etc. Et là, personne ne parle de régulation. Eh ben non, faut surtout pas. Attention.
Non, mais moi, si je pense à mon village, mais à mon environnement, dans un rayon de 10 km à la ronde, on a quand même des soucis avec les sangliers. Et on ne déforeste pas.
Je suis quand même content, c'est que de voir la future génération qui arrive, les jeunes, se préoccupent beaucoup plus à revenir à des fondamentaux, même de l'agriculture moins industrialisée, plus petite, plus raisonnée et raisonnable. Hein, et de voir aussi qu'ils ont beaucoup plus de respect sur les animaux. Peut-être est-ce grâce aux associations qui ont su communiquer, qui ont su se battre pendant des décennies pour faire évoluer un petit peu la société, et en se disant on a envie de protéger, on aime les animaux, on a envie de les protéger. Ils sont comme vous et moi. Hein. Je vis avec eux 24 heures sur 24. Je peux vous assurer qu'ils me surprennent tous les jours. Ils communiquent, mais c'est incroyable. Et vivez avec des animaux et vous ne pourrez plus vous en passer.
Je trouve que c'est une belle conclusion parce qu'on arrive au terme de cette émission qui a posé quelques questionnements, qui a ouvert sur des sujets sensibles, on va dire, dans tous les sens du terme.
Et si on voulait aider justement l'association?
Très bien, c'est ça, les coordonnées.
Alors, si vous voulez soutenir, vous pouvez aller sur notre site web qui est La Petite Maison des Animaux. Donc, vous trouvez facilement sur un moteur de recherche. Ou alors, sur notre page Facebook aussi, vous pouvez nous retrouver. Et vous retrouverez nos coordonnées sur Chaigne, sans problème, sur notre site web, La Petite Maison des Animaux.
Et vous avez bien dit que c'est une association d'intérêt général. Donc
tout à fait.
Et aussi avec une reçue fiscale, j'imagine.
Oui. Tout à fait. Tous les dons sont... Merci. Merci de le rappeler. Donc, tous les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66%, à hauteur de 20% de votre impôt.
Eh bien, merci beaucoup, Bernard Bousma, d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir parlé de ce sujet, qui a suscité de l'intérêt. Je pense que du côté des auditeurs, beaucoup de réflexions vont être menées, et se poser la question de vivre en harmonie avec les animaux qui nous entourent. Chélie, Eric, on se retrouve le mois prochain.
Oui,
avec le dernier invité de la saison.
Oui.
Puisqu'au mois de juin, on fera un petit bilan de l'année. Parce que l'année prochaine, on se retrouvera, mais de manière moins récurrente. Donc, on va vous tenir au courant de tout ça. Merci beaucoup encore à vous, Bernard.
Eh ben, puis, merci de m'avoir reçu.
Longue vie à la petite maison des animaux à Chaigne.
Et puis, longue vie à la protection animale.
Au revoir.
Au revoir. C'est beau.
C'est beau.
C'est beau.
C'est beau.
C'est beau.
Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings,